pour nous cette semaine. Alors merci Seigneur de ce temps que tu nous donnes. Merci d'être avec nous, de prendre contrôle de nos pensées, de prendre contrôle, Seigneur, de mes lèvres, et de répandre, Seigneur, sur tous et chacun ta grâce. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton esprit qui nous guide, qui nous illumine, qui nous éclaire. Nous avons besoin de ta parole qui nous rassasie. Nous avons besoin, Seigneur, simplement de toi. Alors ce soir, ce matin, Seigneur, nous sommes là à tes pieds, en implorant ta grâce, en implorant ta miséricorde sur nos vies, en implorant ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Nous te demandons, Seigneur, étends ta main et touche-nous. Étends ta main, Seigneur, et abreuve-nous. Étends ta main et nourris-nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, toujours dans Proverbes au chapitre 3, du verset 5 au verset 8 cette semaine. La semaine dernière, on a vu les quatre premiers versets. Et aujourd'hui, le verset clé, c'est le verset 6. Mais je lis tout de même pour vous du verset 5 au verset 8. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Je relis pour vous le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je vous disais il y a quelques instants qu'il y a un terme là-dedans dans lequel je me méprenais régulièrement. J'en discutais hier avec mon épouse pour voir quelle était sa compréhension du terme. Et elle avait l'interprétation juste du mot en particulier, alors que j'avais, à ses yeux, je compliquais la chose avec une question de langage ou une question de vocabulaire. Et le terme sur lequel je me méprenais, je vais quand même l'expliquer au cas où d'autres feraient cette même erreur, c'est le terme « reconnaître ». Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le terme « reconnaître », oui, il y a le sens usuel qu'on va mentionner tout à l'heure, mais un des sens de « reconnaître » aussi, et qui était celui que j'utilisais pour ce verset, et notamment le psaume 137 aussi, où on a la même phrasologie. Le terme « reconnaître » que moi je prenais, c'était « reconnaître » dans le sens de proclamer quelqu'un sur un endroit. Lorsqu'on reconnaît quelqu'un comme premier ministre, lorsqu'on reconnaît quelqu'un comme président, comme c'est le cas actuellement aux États-Unis, et comme il y a débat actuellement aux États-Unis, qui reconnaît-on comme président? Est-ce qu'on assoit sur le trône le président qui semble élu, ou on réassoit sur le trône celui qui, pour l'instant, semble défait? Donc, je pensais, dans mon interprétation de ce verset, pendant très longtemps, je pensais que reconnaître voulait dire, effectivement, de placer Dieu comme maître absolu dans toutes nos voies, et que, par conséquent, il aplanirait nos sentiers. Je ne crois pas que ce soit nécessairement une fausseté en soi, dans le sens que, puisque le Seigneur est mon maître et mon Seigneur, puisque le Seigneur est supposé dominer sur nous et avoir primauté sur nous, à ce moment-là, lorsque je le reconnais à titre de chef, à titre de général, à titre de Seigneur sur ma vie, ben, je le reconnais à ce même titre sur mes voies et les sentiers que j'emprunte. Toutefois, la terminologie hébreu ou hébraïque que nous avons devant nous ne parle pas de reconnaître comme quoi installer quelqu'un comme haut placé sur une chose. Le terme reconnaître, le terme yada en hébreu, YADA, qu'on a déjà utilisé dans d'autres formulation par le passé, a un autre sens, et un sens tout simple. Reconnaître dans le sens de percevoir, de distinguer, de repérer et de trouver. Donc, reconnaître Dieu, c'est tout simplement faire l'effort de chercher Dieu là sur le sentier ou sur les voies que j'emprunte. Percevoir Dieu, ça veut dire que Dieu est déjà sur le chemin. Dieu est déjà sur la voie que j'emprunte, mais être capable de reconnaître sa présence dans cet endroit. Et très régulièrement, on fait l'erreur de se précipiter sur un chemin et de ne pas faire attention aux détails que Dieu y place, de ne pas faire attention même à la présence de Dieu sur cette voie. On est tellement emballé par le boulevard qui s'ouvre devant nous ou la ruelle qui s'ouvre devant nous qu'on y emboîte le pas sans se soucier de qu'est-ce que Dieu y est déjà en train de faire, de ce que Dieu voudrait y faire ou de quels sont les plans de Dieu pour nous dans cette voie, dans ce chemin qu'il trace devant nous. Donc ici, Salomon est en train de dire à son fils, et par conséquent, il nous enseigne aussi, en disant, prenez le temps de chercher Dieu dans les voies que vous empruntez. Prenez le temps de le trouver. Soyez capable de le percevoir. Soyez capable de repérer Dieu qui est déjà sur le sentier que vous empruntez. Ça veut donc dire que ça demande un effort de moi et de toi. Reconnaître quelqu'un, c'est l'apercevoir, être capable de distinguer sa forme, être capable de distinguer peut-être le son de sa voix, être capable de distinguer peut-être son type de travail. Vous savez que lorsqu'on goûte parfois le plat de quelqu'un, on est capable de dire, ah, c'est telle personne qui a cuisiner tel plat parce que je sais selon les condiments, selon les épices, selon la technique qui a été utilisée, ça c'est telle personne qui a cuit la chose. Alors que lorsque c'est quelqu'un d'autre, on dit ah non, 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 il manque telle chose, il manque telle chose, il manque telle chose, alors ça ne peut pas être la personne que je pensais. Donc ça prend, c'est l'habileté qu'on développe à reconnaître la présence de Dieu dans toutes nos voies. Et ce faisant, ben, probablement que ça nous demande un peu de recul ou ça nous demande un peu de temps. Trop souvent, on se précipite dans un chemin et par la suite, on demande la volonté de Dieu. On embarque dans une voie et après ça, en fait, c'est même pas la volonté de Dieu qu'on demande. On demande plutôt l'approbation de Dieu. Et s'il s'avère que le chemin qu'on a emprunté n'est pas celui que Dieu avait pour nous, on demande plus ou moins que Dieu corrige la chose. Il serait beaucoup plus sage, beaucoup plus approprié qu'avant de me précipiter dans un chemin, je puisse aussi voir que Dieu est dans ce chemin. Rappelons-nous cette histoire de Moïse qui vient d'aller sur la montagne, qui a vu Dieu face à face. Il y a eu l'autel avec le veau d'or. Il y a des gens qui sont morts punis par le châtiment de Dieu. Dieu a accordé une grâce. Il a levé sa fureur et il dit au peuple de partir, d'avancer dans le chemin. Et Moïse va avoir une phrase qui est importante. Il va dire, Seigneur, ne nous laisse pas aller que tu ne viennes avec nous. Ne nous laisse pas aller quelque part si tu ne viens pas avec nous. Moïse voulait s'assurer que tout au long du chemin, tout au long du périple, Dieu était présent avec ses enfants. Et pour nous, ça doit être un enseignement. Au lieu de se précipiter, d'initier un chemin et après ça, de demander après coup, de demander à Dieu d'intervenir, de demander à Dieu de venir, de demander à Dieu de bénir ou de demander à Dieu de corriger. Pourquoi ne pas prendre un peu de pause, un peu d'arrêt et se dire ce chemin que je m'emprunte, que je m'apprête à emprunter, que je m'apprête à franchir, est-ce que Dieu est là-dedans, oui ou non? Est-ce que je suis capable de percevoir, de distinguer, est-ce que je suis capable de repérer Dieu dans ce chemin ou non? Si je ne suis pas capable de repérer Dieu dans ce chemin, je préfère attendre avant d'avancer. Que Dieu me parle, que Dieu m'instruise et que Dieu initie le chemin à ma place. Donc, faire l'effort de chercher Dieu. Voilà ce que veut dire reconnaître Dieu. Prendre le temps de le chercher. Ne pas se précipiter à courir dans un chemin pour se rendre compte par la suite que j'ai emprunté une mauvaise voie. Alors, reconnais Dieu dans tes voies. Tes voies, le terme Derek. Je sais, en anglais, il y a ce prénom, Derek. Ça s'écrit pareil, mais ça a un sens en hébreu. Donc, Derek, D-E-R-E-K, D-E-R-E-K, c'est les voies. Et dans les voies, on parle du parcours, de la distance à parcourir, de la direction vers laquelle nous cheminons, du processus de déplacement et du temps qu'on met dans ce déplacement. Ça veut dire que le Seigneur nous appelle à chercher Dieu, non seulement sur le chemin que je franchis jour après jour, mais que je cherche aussi Dieu et que je reconnaisse l'approbation de Dieu dans la destination que je poursuis, dans le trajet que j'emprunte et dans la durée que je donne, que je mets à parcourir ce chemin. Pourquoi? Parce que être dans la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement un critère ou un item. Être dans la volonté de Dieu, c'est être dans le temps de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est être dans le lieu de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est être dans l'attitude de Dieu. D'être avec les personnes que Dieu voulait. De poursuivre l'objectif que Dieu voulait. Et s'il me manque un de ces items, alors je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Je peux être dans le temps. Je peux être vers la destination, je peux être dans le parcours adéquat, mais je peux m'être entouré des mauvaises personnes. Et ce faisant, je ne peux pas dire que je suis dans la volonté de Dieu. Je peux être en direction du bon endroit, je peux emprunter le bon chemin, je peux avoir la bonne attitude de cœur, mais si je ne suis pas dans le temps, je suis soit en avance ou en retard sur la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi il est important de chercher la face de Dieu. De dire, Seigneur, ne me laisse pas aller que tu ne sois pas avec moi. Ne me laisse pas aller dans une voie sur laquelle tu n'es pas. Un peu l'image que je donnais la semaine dernière avec le bateau ou la barque, où je dis régulièrement, nous avons notre barque, et on demande à Dieu de venir s'asseoir avec nous dans la barque et de prendre le contrôle de notre barque. Et la plupart du temps, lorsqu'on le fait cela, ben c'est parce qu'on se retrouve en plein cœur de la mer, ballotté par les vents. Puis là, à ce moment-là, on réalise, hey, j'ai peut-être pas demandé à Dieu d'être dans ma barque. Lorsque la Bible nous parle de cette traversée où le bateau de Jésus va être ballotté, où les disciples vont s'inquiéter quant à leur survie, quant à atteindre la destination finale. Jésus, lui, est couché et les disciples vont s'offusquer en disant « Mais Seigneur, est-ce que ça ne te dérange pas qu'on soit en train de périr? » Et Jésus va se lever, va calmer le vent, va calmer la tempête, va calmer la mer et on nous dit que tout de suite après, ils vont accoster. Mais Jésus était dans son bateau. C'était pas les disciples qui ont amené Jésus dans un bateau en particulier. Non, c'est Jésus qui était dans son bateau et les disciples sont montés dans la barque de Jésus. Il est donc important pour nous aussi de ne pas être dans notre bateau, mais de s'assurer d'être dans le bateau de Jésus, ce bateau qui a déjà un port d'attache, qui a déjà une destination et un bateau qui ne peut pas couler, parce que ce n'est pas notre bateau, mais c'est le bateau de Jésus. Donc, être capable de reconnaître Dieu dans nos voies, dans notre parcours, dans notre distance, dans la direction que nous empruntons, dans le temps qu'on met aussi à avancer. Parfois, il y en a qui courent des sprints alors qu'il y a un marathon à courir. Puis parfois, c'est juste un 100 mètres qu'il nous faut courir, mais les gens sont en train de marcher comme s'ils avaient des kilomètres et des kilomètres à franchir. Il nous faut être dans le rythme, dans le temps, dans la pensée, dans la destination que Dieu a pour nous. Et voilà pourquoi il est important de reconnaître, de savoir distinguer le chemin qui est de Dieu ou non. Et il va dire, il va rajouter, c'est un mot qui est important et qu'on a vu hier, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Le terme kol, K-O-L. Et K-O-L ou kol a deux sens qui sont intéressants. Ça nous parle tout d'abord de l'ensemble d'une chose, de la totalité d'une chose. Donc, il est en train de dire, reconnais Dieu dans la totalité de ton chemin. Reconnais Dieu dans la totalité de la destination vers laquelle tu t'en vas. Donc, la destination, la durée, le parcours, reconnais Dieu, sois capable de voir Dieu dominant sur l'ensemble de ce chemin-là. Mais de surcroît à cela, Cole a aussi cette particularité de dire non seulement l'ensemble et la totalité, mais aussi le détail de chacune des parties d'un tout. Un ensemble est composé de plusieurs parties. Parfois, nous, on est intéressé à avoir les grandes lignes de Dieu, et parfois, Dieu, effectivement, nous révèle la destination finale, mais ne nous explique pas toujours le détail du parcours. Mais lorsqu'on nous dit « reconnais Dieu dans tes voies » ou « dans toutes tes voies », dans le col, on est supposé être capable de reconnaître Dieu dans chacune des parties, des sections de chemin que nous empruntons. Là où tu es aujourd'hui, es-tu capable de dire effectivement « Dieu est là où je dois être aujourd'hui » ou « Je suis là où Dieu me veut aujourd'hui » Lorsque je suis passé par la maladie, je vous disais « Je n'ai aucun doute d'être exactement là où Dieu me veut. » Et ça, c'est rassurant. Très souvent, on chemine un peu à tâtons. On chemine un peu en expérimentant, en espérant aussi que Dieu soit là. Mais quand vous avez cette certitude profonde, indéniable, que Dieu vous a confirmé la chose comme quoi vous êtes exactement là où il vous voulait, même un cancer ne peut plus vous affecter. Même une terrible nouvelle ne peut plus vous affecter. Même l'opposition qui viendrait face à vous ne peut pas vous affecter. Vous restez en paix, vous restez tranquille parce que vous savez que vous êtes exactement là où votre maître, là où votre Seigneur vous veut. Alors il est important de prendre ce temps et de chercher la face de Dieu pour votre vie. Pour ma vie, je dois chercher la face de Dieu. Dans une période aussi incertaine que celle que nous vivons actuellement, on entend des choses à droite, on entend des choses à gauche, les gens ont des opinions divergentes, rarement convergentes, souvent opposées les uns aux autres. Pour ta vie personnelle et pour ma vie personnelle, j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Très souvent, nos conflits qu'on a avec les gens, c'est parce qu'on essaie de justifier qu'on est dans la volonté de Dieu, alors que lorsqu'on sait pleinement qu'on est dans la volonté de Dieu, on est tout calme. Dans mon périple, il y avait des gens à un moment donné qui me disaient « Florent, tu dois prendre la chimiothérapie ». D'autres qui disaient « Non, Florent, tu ne dois pas prendre la chimiothérapie ». À un moment donné, lorsqu'on est venu à l'idée de me couper le pied, de m'amputer le pied, ben, il y avait des gens qui avaient cet avis, « Oui, Florent, tu dois te faire amputer le pied parce que ça va te maintenir en vie. » Et d'autres qui disaient, « Non, Florent, si on t'ampute le pied, ça sera un manque de foi. » J'ai dû aller chercher la face de Dieu. J'ai dû aller chercher la volonté de Dieu pour avoir cette certitude ferme, profonde, indéniable. Voici ce que Dieu a pour moi. Et vous savez qu'il a utilisé un verset que je connaissais, oui, mais je sais même, en fait, actuellement, je ne saurais même pas vous dire précisément dans quel chapitre il se trouve. C'est dans Ésaïe, où il va dire qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui publient la paix, de ceux qui sont sur Sion et qui publient la paix et qui dit ton Dieu règne encore. Il parlait des pieds au pluriel et pour moi, ça a été la confirmation de ce que Dieu avait pour moi le matin même où je devais donner une décision ou rendre une décision par rapport à me faire ou pas amputer le pied au début de notre parcours avec la maladie. Donc, on a besoin d'avoir une parole qui vient de la part de Dieu. Et quand c'est arrivé, quand j'ai eu cette parole, j'ai pu me tenir en paix devant le médecin, devant le podiatre qui voulait me couper le pied, en lui disant non, moi je ne me fais pas opérer. Et il était tout surpris en me demandant pourquoi. Et je dis parce que j'ai d'autres montagnes à gravir. Et ça, je faisais allusion donc au verset que j'avais reçu de la part du Seigneur. Donc on a cette paix qui vient du fait que nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et je prie, mon frère, ma sœur, je prie vraiment que tu puisses expérimenter cette chose-là. Ça change une existence de savoir que tu es exactement, parfaitement, totalement dans le point où Dieu te veut, avec le caractère que Dieu veut pour toi, avec les circonstances que Dieu veut pour toi. Tu expérimentes par conséquent la paix qui surpasse toute intelligence. Je pouvais dormir tranquille, je savais que Dieu était au contrôle. Il va dire, reconnais-le dans toutes tes voies. J'ai la bouche qui est sèche, je devrais boire, mais je vais attendre un peu. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il nous dit qu'il y a des conséquences à cela. Les conséquences, c'est qu'il aplanira ton sentier. Le terme aplanir, yachar, Y-A-S-H-A-R, Y-A-S-H-A-R, qui veut dire redresser, on va revenir sur chacun des termes, redresser, niveler, rendre plaisant et rendre approuvable. Donc le Seigneur est en train de dire, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Sois capable de percevoir le Seigneur dans toutes les parties de ton chemin et il va faire en sorte d'aplanir, lui-même va aplanir ton sentier. Ça veut dire que lorsque tu dévies, il redresse le chemin. Lorsque tu t'écartes, il redresse le chemin. Pourquoi? Parce que tu as cherché la face de Dieu, tu as cherché la volonté de Dieu. Très souvent, l'égarement, c'est tout simplement qu'on n'a pas pris le temps de demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu dis de mon chemin? Ou on n'a pas pris le temps d'écouter la voix de Dieu sur ce qu'il dit de notre chemin. Ou on n'a tout simplement pas cherché à connaître la volonté de Dieu sur le chemin que nous empruntons. Donc, quand je cherche la pensée de Dieu, quand je reconnais Dieu dans mon chemin, je vois aussi Dieu réajuster le chemin et le sentier que j'emprunte. Il redresse la voie où tu pourrais avoir dévié. De surcroît à cela, lorsqu'on parle de aplanir, yachar, non seulement ça veut dire redresser, mais ça veut dire aussi niveler. Niveler, ça veut dire que soit il aplatit le chemin, soit il fait en sorte que la pente soit stable. En fait, il arrange le sentier devant toi. L'image que j'avais, c'était que soit Dieu va aplanir les montées, et la Bible nous dit qu'il est capable d'aplanir des montagnes, qu'il n'y a pas une montagne trop grande qu'il ne puisse l'aplanir et l'écraser ou l'acheter dans la mer. Ça veut dire que soit il va aplanir le sentier pour que tu restes à la même altitude, sinon, puisqu'il y a une montagne, et si sa décision ce n'est pas d'aplanir la montagne, il va te donner la force pour gravir la montagne. Et c'est ça qui est fantastique avec Dieu, c'est que si je suis dans le chemin du Seigneur, non seulement il aplanit la voie, mais de surcroît à ça, il me donne aussi les forces, l'énergie, les capacités nécessaires pour faire de l'escalade, alors que je peux être sujet au vertige, que je peux être sujet aux faiblesses physiques parce que logiquement je suis pas capable de faire cette escalade-là. Si c'est le mont Everest qui s'élève devant moi, il va se passer deux choses si je suis dans la volonté de Dieu. Trois choses. Soit il va écraser le mont Everest, soit il va percer une voie dans le mont Everest pour que je franchisse, ou sinon, il va me donner la capacité d'être le plus grand des alpinistes de ma génération pour gravir, pour surpasser, pour passer de l'autre côté du mont Everest. Pourquoi? Parce que j'ai cherché sa volonté et parce que j'ai mis ma vie au diapason avec sa volonté. Donc, il aplanit les montées où il nous donne la force de grimper. Yachar veut aussi dire qu'il rend plaisant. Ça veut donc dire que le chemin que Dieu a pour moi se doit d'être plaisant. Est-ce que ça veut dire que toutes les circonstances du ministère sont agréables? Assurément pas. Il y a de bonnes journées, il y a de mauvaises journées. Il y a des journées qui sont faciles, il y a des journées qui sont moins faciles. Il y a des rencontres qu'on a avec des gens qui sont tout à fait agréables et il y a des rencontres qu'on a avec des gens qui sont parfaitement désagréables. Il y a des réunions desquelles on sort enjoué, il y a des réunions, des actions ou des activités desquelles on ressort abattu. Mais foncièrement, lorsque tu regardes le chemin dans lequel tu chemines actuellement, dans lequel tu parcours actuellement, si tu es dans la volonté de Dieu, il fait en sorte que ce chemin devienne plaisant. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. À ce moment-là, tu n'as pas la culpabilité qui vient avec le fait de t'être éloigné de la volonté de Dieu. Tu as donc cette paix qui dépasse l'entendement, qui t'habite parce que tu sais que tu es là où tu dois être, exactement au moment où tu dois y être. Donc, il rend ce chemin plaisant. Et j'aimerais dire, la Bible nous dit que le joug que Dieu nous donne est un joug qui est léger. Servir Dieu, c'est pas une clé de bras dans le dos, puis un tordage de bras dans le dos, puis un tirage d'oreille, et ça fait mal. Servir Dieu doit amener du plaisir. Première raison de plaisir, je sers le roi des rois. Moi, infâme pécheur, moi, infâme, inique personnage, il me donne l'occasion de participer à l'avancement de son royaume. Il me donne l'occasion de participer à la construction de l'édifice le plus génial de l'histoire de l'humanité, l'Église. Ce simple privilège de pouvoir travailler pour Dieu devrait rendre la chose déjà agréable. Faisons attention à ce que nous disons de l'œuvre de Dieu. Trop souvent, il y a des gens qui parlent du travail, parlent des services qu'ils accomplissent pour Dieu, et on dirait que la seule chose qui sort de la bouche, c'est combien c'est éreintant, combien c'est demandant, combien c'est exigeant, combien c'est éprouvant, combien c'est douloureux. Mais ça ferait que Dieu est un menteur. Puisque son joug est léger, puisqu'il te donne le repos, soi-disant, alors tu dois te poser des questions. Es-tu ou n'es-tu pas dans la volonté de Dieu? Et si tu es dans la volonté de Dieu, peu importe l'adversaire, peu importe la montagne, gravir le mont Everest, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Ça ne se fait pas sans perdre son souffle. Gravir le mont Everest va te demander des efforts physiques. Ça se pourrait qu'en arrivant au-dessus du mont Everest, que tu aies quelques courbatures. C'est normal. Mais pense où tu étais avant, au bas de la vallée, et maintenant tu as plus de 5000 mètres d'altitude ou 7000 mètres d'altitude au-dessus du mont Everest. Pense à tout ce que ça a pris depuis le moment du départ jusqu'à ce point culminant du sommet. Humainement parlant, tu ne pouvais pas y arriver. Techniquement parlant, tu ne pouvais pas y arriver. Intellectuellement parlant, tu ne pouvais pas y arriver. Spirituellement parlant, tu ne pouvais pas y arriver. Tu y es arrivé parce que Dieu t'a donné ce que ça prenait pour arriver jusque là-haut, même si ça t'a demandé des efforts, même si ça a suscité quelques courbatures. Et tous les alpinistes qui se retrouvent au sommet du mont Everest sont ébahis par la vue et se mettent pratiquement à pleurer de joie d'avoir réussi cet exploit d'être en haut du mont Everest. Alors pense au privilège que tu as de gravir le mont Everest. Donc il donne aussi des occasions de réjouissance, il rend la route agréable. Yachar, pour aplanir le sentier, veut dire aussi approuver. Ça veut dire que Dieu met son sceau d'approbation sur le chemin que tu parcours, sur le chantier, ou le sentier plutôt, sur lequel tu chemines. Il met son sceau d'approbation. Es-tu convaincu? Et le sceau d'approbation, c'est pas « je pense que ». Le sceau d'approbation, c'est « je sais que ». Et c'est pas « j'essaie de me convaincre », mais j'ai des preuves tangibles. J'ai des preuves véridiques qui me disent que je suis effectivement dans la volonté de Dieu. Tu dois avoir cette assurance. Tu dois avoir ces choses qui fortifient ta foi. Cheminer par la foi, c'est pas cheminer par à l'aventure. Cheminer avec la foi nous vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu, qu'elle soit Réma ou qu'elle soit Logos. Qu'est-ce que Dieu dit sur ton chemin? Dieu a-t-il dit sur la destination vers laquelle tu veux aller? Dieu a-t-il parlé sur le chemin que tu veux emprunter? Dieu a-t-il parlé sur la porte que tu veux ouvrir? Dieu a-t-il parlé sur l'orientation que tu veux donner à ta vie? Dieu a-t-il parlé sur l'objectif après lequel tu cours? Si Dieu n'a pas parlé, arrête, fais une pause et cherche la voie de Dieu, cherche la face de Dieu. Il dit, il aplanira ton sentier. Le dernier terme pour nous aujourd'hui, le terme Orash. Apostrophe O-R-A-S-H. Je répète, apostrophe O-R-A-S-H, Orash, pour le terme sentier. Voyez donc, tout à l'heure, c'était la voie, le Derek, et là, c'est le sentier Orash. Et Orash veut dire la rue, la route, le chemin, mais dans le sens de du chemin qui est pavé, du chemin qui est terrassé, du chemin, de quoi est constitué ce chemin. Non plus maintenant dans la destination, non plus dans le parcours géographique qu'il emprunte, mais purement et simplement dans de quoi est fait ce chemin. Il nous dit, il aplanira ton sentier. Donc Dieu va se charger du chemin qu'empruntera ton parcours. Dieu se charge de la constitution même de ce chemin-là. Peut-être qu'à tes yeux, ce chemin passe à travers une mer rouge. Peut-être qu'à tes yeux, ce chemin, et peut-être que c'est réel, peut-être qu'il passe à travers un Jourdain. Mais si tu dois franchir ce Jourdain, si tu dois franchir cette mer rouge et que le chemin te semble se dissiper sous tes pieds, Dieu est encore capable aujourd'hui de faire comme pour le peuple d'Israël et d'ouvrir, de séparer les eaux, de faire en sorte que ce chemin que tu pensais infranchissable, que tu pensais terminé, alors que tu vois les ennemis qui s'approchent derrière toi, d'un coup Dieu ouvre le chemin à travers les eaux et tu passes à sec. Dieu est maître, Dieu se charge du terrain qu'emprunte ton parcours. Il n'est pas soumis à l'eau, il n'est pas soumis à la rocaille, il n'est pas soumis aux plantes qui peuvent y pousser, il n'est pas soumis aux conditions du sable. Est-ce que c'est du sable qui est solide? Est-ce que c'est des pierres qui sont solides? Est-ce que c'est du sable mouvant? Dieu n'est pas soumis là-dedans. Il aplanit ton sentier. Il se charge du type de terrain sur lequel tu marches. Dieu se chargera de la constitution de ce chemin sur lequel tu passes. J'ai un dernier point pour nous ce matin. Le chemin vers lequel Dieu veut t'amener n'est assurément pas un mauvais chemin. La destination vers laquelle Dieu veut t'amener n'est assurément pas une mauvaise destination. Dieu ne t'amène pas sur une voie pour te perdre. Dieu ne t'amène pas sur un chemin pour t'y voir échouer. Dieu ne tente personne. Dieu ne t'amène pas sur un chemin et tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as amené ici. Je suis tombé simplement parce que j'ai été tenté, parce que c'était le chemin. Non, Dieu ne t'amène pas en tentation. Il faut que ce soit clair. Le chemin de Dieu est un chemin sanctifié, est un chemin qui sanctifie, est un chemin qui réforme, est un chemin qui nous amène vers une proximité encore plus intime avec Dieu. Dieu ne tente personne. Le chemin qu'il a pour toi ne te mène pas au péché. Si tu aboutis au péché à travers ce chemin, c'est que toi ou moi qui chutons avons décidé de bifurquer de la voie de Dieu. Le chemin de Dieu n'est pas parsemé de tentations. La tentation se trouve sur le côté. Mais le chemin que Dieu place devant moi, la Bible me dit que sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il éclaire mon sentier pour que je sache où je place le pied. Il éclaire mon sentier pour que je sache reconnaître les traquenards et les pièges du diable. Mais Dieu ne te tend pas de piège. Alors refuse les mensonges du diable aujourd'hui. Et c'est un péché dans lequel on tombe facilement. Rappelez-vous ce que Adam va dire à Dieu après la chute. Il va dire, « Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. » Non seulement il repousse le blâme sur la femme, mais de surcroît à cela, il dit, « Seigneur, si tu ne l'avais pas créée, le problème ne serait pas arrivé. » Donc foncièrement, si je suis tombé, c'est à cause du problème que toi tu as créé pour mettre à mes côtés. Ce faisant, le blâme tombe sur Dieu. Le péché d'Adam, le péché d'Ève, ils étaient l'un et l'autre coupables, délibérément coupables pour leur faute. Ne blâmons pas Dieu pour notre chute et notre échec sur le chemin. Dieu ne te destine pas à l'échec. Dieu ne te destine pas à la chute. Dieu te destine à le reconnaître dans l'ensemble et dans les détails du parcours qui est le tien. Et ce faisant, lorsque tu reconnais la présence de Dieu à tes côtés sur le chemin que tu empruntes et sur la destination vers laquelle tu chemines, la Bible nous dit qu'il a plané, qu'il se charge de la constitution même du terrain sur lequel tu dois passer. Alors si c'est une mer, il fait en sorte que les eaux s'écartent ou que tu aies maintenant cette capacité à marcher même sur les eaux. Lorsque je parle régulièrement de Élisée qui revient de l'autre côté du Jourdain, alors qu'Élie avait séparé les eaux quelques instants plus tôt, Élisée a le choix. Soit je nage, soit je me mouille, soit Dieu intervient. C'était le chemin que Dieu avait pour lui. Il a frappé les eaux, il est passé, il est revenu. Alors toi aussi, mon frère, tu n'es pas destiné à l'échec. Tu n'es pas destiné à la fausse route. Tu n'es pas destiné à une fin décevante. Tu es destiné à aller à bon port parce que Dieu t'a dit « passons de l'autre côté ». Alors prions ce matin pour terminer. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce temps. Merci Seigneur parce que c'est toi qui éclaires effectivement notre sentier. Tu es une lampe à nos pieds, ta parole est une lampe à nos pieds. Seigneur, je prie aujourd'hui que tu parles à ta fille. Je prie aujourd'hui que tu parles à ton fils concernant le chemin qu'ils empruntent. Je prie, Seigneur, qu'ils prennent le temps de discerner ta présence ou non sur ce chemin, ta présence ou non dans cet objectif qu'ils poursuivent, ton approbation ou non dans les plans et les projets qu'ils formulent. Et je prie, Seigneur, que tu puisses te révéler de façon claire et précise pour chacun d'entre eux. Seigneur, s'ils se sont égarés, s'ils ont dévié de ta voix, je prie, Seigneur, que ta grâce vienne les saisir, que tu aies miséricorde, ô Dieu. Je prie, Seigneur, qu'ils tendent l'oreille à ta voix et qu'ils acceptent ce que tu peux leur dire et que tu puisses, Seigneur, les ramener sur le droit chemin, sur le sentier qui est juste, sur le sentier de la justice. Et Seigneur, pour mon frère ou ma sœur qui se retrouve aujourd'hui dans un sentier qu'ils savent venir de toi, mais avec un obstacle qui semble infranchissable devant eux, un Everest, une mer rouge, un géant terrifiant, un fauve affamé et rugissant devant eux, Seigneur, tu es capable d'ouvrir un chemin en plein cœur de la montagne. Seigneur, tu es capable de séparer les eaux. Seigneur, tu es capable de faire tomber Goliath. Seigneur, tu es capable de faire dormir le lion rugissant pour que ton fils et ta fille puissent continuer le chemin que toi tu ouvres devant eux. Alors j'appelle, Seigneur, ta voix. J'appelle ta présence. J'appelle, Seigneur, une parole claire de ta part envers ma sœur et mon frère. Et je prie, Seigneur, que tant eux que moi soyons soumis à ta voix et acceptions, Seigneur, tes avertissements. Acceptions, Seigneur, ton orientation. Et acceptions, Seigneur, comment tu réformes et comment tu corriges le chemin que nous empruntons. Que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Amen. Alors, laissez-moi saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Quand même plusieurs. Laissez-moi monter un peu. On a la sœur Florie. Ça tombait durant le week-end, c'était dimanche, mais il n'est jamais trop tard pour faire une bonne chose. Donc la sœur Florine Elvie Medrano, c'est son prénom qui apparaît, c'est son nom qui apparaît ici sur Facebook. Dimanche, c'était son anniversaire, le 8 novembre. Donc nous lui souhaitons un très 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 joyeux anniversaire, même si c'est un peu en retard. Puisque ça s'est passé durant le week-end hier, elle n'était pas là en direct avec nous, donc je n'ai pas pu faire la chose hier, mais je vous invite donc à saluer la sœur Florie et à lui souhaiter un joyeux anniversaire, même en retard, et envoyer vos voeux de bénédiction auprès d'elle. Bonjour à qui d'autre? À Diana. Bonjour à Denise et Gérard de Sainte-Adèle, Valmorin. Bonjour à Babette. Bonjour à Chanel. Bonjour à Mélida. Bonjour à Sylvia, bonjour à Farley et Marie-André, bonjour à Maggie, bonjour à l'autre Denise, celle de Laval, la sœur Denise Gaudreau de l'église de Deux-Montagnes, bonjour à Julie, bonjour à l'autre Daniel, cette fois-ci Daniel avec LLE, donc bonjour Daniel, que Dieu vous bénisse, bonjour à Linda, bonjour à Rosie, bonjour à Ramon. Bonjour à qui d'autre? Au frère Pedro de l'église de Longueuil. Bonjour à... Je pense que c'est tout pour ce matin. Voilà. Donc, quels sont nos autres rendez-vous cette semaine? Donc, demain matin, bien entendu, le verset 7, la suite des instructions à mon enfant, instructions de Dieu à ses enfants. Donc, demain matin à 8h30 toujours. Et puis, par la suite, demain soir, on a l'étude biblique avec le pasteur Sergio, jeudi matin, bénédiction matinale, vendredi matin, bénédiction matinale, journée de jeûne aussi pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Et on termine cette période de jeûne le soir venu à 19h avec notre soirée de prière et d'intercession. Alors, c'était là les paroles pour ce matin, c'était là la bénédiction matinale du mardi 10 novembre 2020. Encore une fois, joyeux anniversaire à la sœur Florie. Et puis, bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Au revoir tout le monde.